famille, justice, enfance.
Moi, ce qui m'intéresse beaucoup chez Katia, c'est qu'elle a un angle de vue qui est forcément différent du mien, parce que moi, je suis un homme, j'attire beaucoup les gens qui me ressemblent, qui ont les mêmes injustices que notre communauté et autres. Vous, forcément, vous parlez depuis votre point de vue, depuis votre parcours, mais vous avez aussi interrogé énormément de spécialistes, d'universitaires, d'écrivains, d'auteurs, de victimes et autres. Et donc, votre analyse, à vous deux, m'intéresse aussi. Et c'est pour ça aussi qu'il faut la regarder. Moi, je reviens sur la question d'origine. Comment ça se fait qu'il y a des gamins et des gamines qui se font agresser, on est sûr, il ne se passe rien? Et pourquoi il y a des gamins et des gamines qui sont juste en fait en conflit de loyauté, qui sont instrumentalisés par leurs parents? Et puis, si demain, vous voulez faire une crasse à quelqu'un, vous appelez le 119 et puis vous dites qu'il tape les enfants et ça suffit, on les enlève. Et puis, dans le même côté, celui qui rentre avec un gros problème, saignement et tout, et il continue à y aller le week-end d'après. Comment ça se fait qu'on ait vraiment ces deux extrêmes-là?
On est obligé de parler du patriarcat. On ne peut pas faire autrement. C'est sûr.
Attention, on y va.
Attendez. Oui. Julie, qui me connaît bien, vous dira que moi, je défends les hommes.
Allez-y. C'est très libre,
non,
mais tu peux y aller.
Je ne reçois des hommes.
Non, je reçois des hommes.
Oui. Non, ce que je veux juste dire, c'est que notre société a tendance à voir l'homme comme le responsable. Franchement, il faut voir les choses en face. Et la mère, beaucoup moins. Sauf que dans cette société-là, on confie beaucoup plus les enfants au père qu'aux mères lorsqu'il y a un problème. Moi, je peux vous raconter des choses invraisemblables. Il y a des mamans qui, pour voir leur enfant une heure assistée, ce qu'on appelle les médiatisations assistées, elles traversent la France et elles voient leur enfant une heure par mois. Alors, j'ai une maman qui me disait récemment, j'arrive là-bas, je veux prendre mon enfant, mais mon enfant est tellement traumatisé qu'il ne veut pas venir dans mes bras. Et quand il se lâche un peu, il me raconte qu'en fait, c'est toujours la même chose avec papa, que papa, il met son zizi, etc. Vous voyez ? Donc ça, c'est grave. C'est la chose vraiment où moi, j'ai envie de me révolter en disant, mais de quel droit fait-on des choses comme ça ? De quel droit notre justice agit-elle de cette manière-là ? Vous voyez ? Alors, c'est lamentable.
Ça s'explique souvent, c'est qu'en fait, quand on est une maman et qu'on voit son enfant agressé, et l'agression sexuelle étant la pire, une maman se met en colère, se met dans des états d'hystérie parce que c'est inconcevable. Ça va nous chercher dans nos tripes, c'est insupportable. Et là, la mère est cataloguée comme hystérique, instable émotionnellement et donc pas apte à garder l'enfant. Alors qu'en fait, elle a une réaction saine d'animal protecteur de son enfant. Et ça, c'est vu comme quelque chose de négatif par beaucoup de cours de justice et de juges. Alors qu'en fait, non, que la maman se rugit comme une gnome, c'est positif. C'est très positif.
Moi, j'ai une petite statistique qu'on a du mal à avoir d'ailleurs, parce que le ministère donne les stats qu'il a envie de donner, très clairement. On sera tous d'accord sur ça. En cas de séparation conflictuelle avec désaccord sur le mode de garde, les pères ont la garde uniquement 7 à 8% du temps. Ça, ce chiffre comprend les enfants qui sont adolescents, qui peuvent imposer leur point de vue, qui ont atteint l'âge de raison. Et ce chiffre comprend les mères dysfonctionnantes qui ont été reconnues par expertise comme étant dysfonctionnantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas généraliser en disant que les mères ne voient pas leurs enfants lorsqu'il y a une séparation. Je suis obligé de dire que dans cette opération de destruction de la famille, le premier pilier qui se fait décalquer lors des séparations, c'est le père. Ça, c'est les statistiques. Ensuite, la mère se retrouve très facilement isolée et c'est là que les sociaux et l'ASE, en fait, quelque part, viennent et font leur beurre. Surtout lorsqu'il y a un rapport conflictuel. Les éloignements géographiques volontaires et autres, c'est difficile de dire. Moi, dans les permanences et les dossiers que j'ai suivis, c'était pas monsieur qui partait avec les enfants chez dame de voir.
Bien sûr, parce que vous recevez les hommes qui veulent avoir la garde partagée de leurs enfants. Mais malheureusement, dans ces 93% qui ne l'ont pas, il y en a quand même une grande partie qui ne la veut pas.
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et cela, c'est vrai qu'il m'intéresse beaucoup moins. Je suis d'accord avec ça, de la même manière que les salauds et ceux qui sans qu'ils ne veulent pas, j'ai tendance à pas beaucoup les défendre. Ça, je veux bien l'entendre. On ne peut pas généraliser en disant... Vous voyez, moi, je pense qu'on est en train de se faire avoir. On est dans une société où on essaie de diviser énormément les gens et de les mettre dans des cases. Moi, j'ai eu besoin de vivre en Irlande pour avoir mon meilleur pote nigérian, par exemple, et etc. C'était New York. quand je vivais en Asie, j'avais des amis qui étaient homo et tout, mais il y avait un tel respect de la sphère privée de chacun que ça se côtoyait, ça se fréquentait. Ils n'étaient pas dans le militantisme, ils n'étaient pas dans le dans la promotion et autres, et ça se passait très très bien. Et ici, on se retrouve étiquetés et on est tous montés les uns contre les autres. Les femmes vont dire c'est les hommes qui m'empêchent de voir les gosses. Les hommes vont dire c'est les femmes qui m'empêchent de voir les gosses. Et à la fin, on les voit pas et c'est eux qui sont. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vas-y, Julie.
Je pense qu'il faut pas généraliser, et c'est notre problématique en France, c'est qu'on a envie d'appliquer un seul protocole, une seule solution à des milliers de situations individuelles différentes. Et il faut prendre du cas par cas. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a une systématisation, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qui est pas possible. C'est-à-dire, comme je disais, il y a des moments où, en fait, la solution, c'est accompagner les parents. D'autres moments, la solution, c'est de placer l'enfant. D'autres moments, la solution, c'est de le faire adopter. Mais il y a toutes les solutions possibles.
L'institution est extrêmement brutale dans ses rapports avec les parents, voilà, de manière générale.
Exactement, exactement. Et on n'a pas le droit, comme si on n'avait pas le droit à l'honneur. C'est-à-dire qu'en fait, moi qui suis une victime d'inceste, j'accueille dans mon cabinet des personnes qui ont commis l'inceste, qui ont eu des actes pédophiles envers des enfants. Et donc, en fait, je les accueille parce que ces personnes-là, souvent, ont elles-mêmes subi. Hein, je veux dire, dans tous ceux que j'ai accueillis, ils ont subi des mêmes actes quand ils étaient enfants et ne font que répéter l'introjection de l'agresseur et ils sont dépassés par leur pulsion, même s'ils ne veulent pas. Mais en faisant une bonne thérapie, en fait, ils en ressortent et ils vont très bien et ils peuvent à nouveau être, envisager d'être parents derrière. Je sais que je vais choquer en disant ça, mais c'est possible et c'est sans doute le cas.
Katia a eu des enfants, par exemple. Vous voyez, c'est un parcours extrêmement lourd. On en a parlé par téléphone. Elle s'est reconstruite, elle a trouvé l'amour, elle a eu des enfants, ça s'est bien passé, ils sont grandis, elle est grand-mère, ils se sont mariés, donc ça a marché, donc c'est possible.
Non, mais je parle même des agresseurs. C'est-à-dire qu'en fait, un agresseur n'est pas obligatoirement agresseur à vie, alors qu'en France, on met dans des petites boîtes. Qui dit agresseur à vie. Qui dit victime à vie. Qui dit qu'une femme, par exemple, a pété les plombs dans le tribunal un jour, elle est hystérique à vie, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à généraliser, cloisonner, cliver.
Je crois qu'il y a aussi, disons-le, une certaine médiocrité dans le traitement des affaires familiales. On y envoie beaucoup de débutants qui sortent à peine de l'école. Lorsqu'on est un psychologue, un psychiatre performant avec une clientèle, on n'a pas le temps d'aller travailler pour l'État qui vous paiera dans 3 ans, une misère. Donc, il y a vraiment, je pense qu'il faut porter un regard extrêmement critique. Et ça, c'est pas que sur le familial. Mes amis qui font l'immobilier me disent, moi, quand je me fais escroquer, maintenant, je vais plus au tribunal. Si vous faites agresser dans la rue, qu'on pique votre voiture, ils vont pas faire grand chose pour vous, etc., etc. Là, on se plaint parce que c'est nos enfants et ça devient très, très embêtant. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit effondrement plus global de l'institution. C'est pas ce que vous en pensez. Ça pourrait expliquer beaucoup de choses.
Mais j'ai envie de rebondir sur ça. C'est une réalité. C'est qu'en fait, il y a les gens sont pas formés et les gens croient être formés, les gens croient avoir compris dans ces institutions-là, alors qu'ils n'ont pas été formés à la réalité de ce qu'est le trauma, de ce qu'est l'inceste, de ce qu'est l'agression, la maltraitance et dans quel contexte ça peut évoluer et comment prévenir tout ça. C'est-à-dire que quand un juge sépare un bébé de sa mère à 3 jours à la clinique, il a rien compris.
Non.
Il n'a vraiment rien compris.
Absolument rien. Et je reviens. Oui, Katia.
Pardon, il y a aussi une chose qui est très choquante aujourd'hui, c'est que, reprenons l'ASE, parce que c'est quand même eux qui sont à la base. Ils ont à cœur de séparer, de faire éclater les familles. Alors, moi, je vous donne un cas, parce que ce cas-là est dans mon émission. C'était grands-parents que j'ai reçus, pour vous expliquer. Ces grands-parents-là, Daniel Floquet, monsieur et madame Floquet, Françoise pour la maman, ces gens-là ne sont pas n'importe qui. C'est une famille très, très construite, très bon milieu social. Malheureusement, certainement pour eux, trop bon milieu social et trop bonne situation aussi, donc ça déplaît aussi quelque part, vous voyez. Et ils ont des enfants. Bon, ils ont une fille. Leur fille est autiste. C'est terrible, être autiste, il faut savoir ce que ça veut dire, c'est terrible. Cette jeune femme s'est mariée avec quelqu'un qui avait aussi des problèmes, pas d'autisme, mais qui avait des problèmes. Ils mettent au monde des jumeaux autistes, je ne sais pas si vous imaginez, et une petite fille, un autre enfant, autiste également. Nous voilà avec 3 autistes, que, bien évidemment, la zone ne veut pas considérer comme autiste. Il a fallu qu'ils se battent pour leur faire admettre que ces enfants-là ne devaient pas être séparés. Oh, écoutez, ils n'ont pas hésité. Alors d'abord, ils ont pris les enfants aux parents. Les grands-parents qui proposaient de les accueillir chez eux, étant donné qu'ils arrivaient à la retraite, ils allaient avoir leur temps, vous voyez, pour s'en occuper. Ah non, pas question, non, ce n'est pas possible. Après, on est même allé leur demander leur
revenu. Plein de témoignages de parents d'enfants handicapés.
C'est affolant.
Ils perdent leurs enfants. Les parents qui se fâchent, les parents qui s'engueulent, qui se crêpent le chignon, les handicapés.
Parce que ça va très loin. Donc, vous avez des autistes, donc 3 enfants autistes, dont des jumeaux. eh bien, tout ce qu'on a trouvé le moyen de faire, c'est d'aller séparer les jumeaux et les mettre dans des foyers différents. Alors déjà, ils sont autistes, les pauvres enfants, ils sont jumeaux et on les sépare.
Ce qui est interdit d'ailleurs, qui est interdit par le code de procédure en plus.
Voilà, et les grands-parents dont je vous parle ne peuvent pas voir leurs petits-enfants. On ne remet pas leur courrier aux petits-enfants. Mmh. On ne remet pas leurs cadeaux. On ne leur passe pas au téléphone. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où l'horreur de notre société
peut aller. Mais moi, je vois très bien. Ce que vous dites, en fait, rejoint une constatation relativement simple. Il y a des textes. Les textes ne sont pas appliqués. Ils ne sont pas respectés. Quand je lis les dossiers, la définition de la réalité ne correspond pas à la réalité existante, parce que c'est des copier-coller qui s'empilent. Au bout de plusieurs années, ça devient absolument illisible. On prend le code civil, 375 et quelques, là, c'est l'autorité parentale. Il y a 9 alinéas, c'est pas non plus là, le bout du monde. Hein. Il y a des codes de procédure. Les lois ne sont tout simplement pas appliquées. Et vous avez même des gens, des magistrats qui vous disent, oui, on sait, mais on fait ce qu'on veut. Et ils vous le disent comme ça, ouvertement. Et après, vous perdez vos gosses. Et on est, je crois, à 450 ou 500 000 enfants qui sont déparentés, en fait.
Bien sûr. Et c'est là où on arrive à quelque chose qui, évidemment, ne plaît pas à nos dirigeants. C'est que vous avez maintenant des parents qui fuient à l'étranger.
Oui.
Et il y a pas mal de cas. D'ailleurs, jeudi prochain, je vais recevoir en visio, hein, je vais avoir quelqu'un en visio qui est en Amérique du Sud et qui a dû fuir avec ses enfants pour pas qu'on lui arrache.
Mais
où on va, là ?
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, j'ai vécu 10 ans en dehors de France. Quand je suis revenu, j'ai été frappé par l'état de mon pays. À une époque, j'allais voir les permanences pour les parents qui avaient du mal à s'occuper de leurs enfants. Je faisais du conseil. C'est pas du juridique, parce que je suis pas juriste. Je suis très mauvais, en plus, dans la pratique, parce qu'il y a les textes, il y a les usages. Dans les usages, c'est pas bon, etc. C'était plutôt du coaching et comment survivre et autres. Mais aujourd'hui, dans tous les réseaux d'entraide où je suis, on dit aux gens, si vous voulez avoir une famille où c'est vraiment vous qui transmettez vos valeurs, où c'est vraiment vous qui éduquez vos enfants, il faut partir dans des parties du monde qui sont traditionnelles, il faut quitter l'Occident. C'est malheureux, mais c'est ce qu'on est obligé de dire autour de nous, parce que ici, c'est plus nos gosses. L'éducation, c'est plus nous qui la faisons. La transmission des valeurs, c'est plus nous qui la choisissons. Et ils peuvent disparaître pour un claquement de doigts, pour une raison incompréhensible. Ils peuvent avoir des souffrances très grandes qui ne sont pas résolues. Enfin, vraiment, c'est presque devenu dangereux d'envisager de faire une famille à long terme ici. C'est triste.
Vous vous souvenez du cas de Priscilla Madjani? Parce que Priscilla Madjani, c'est quand même une histoire incroyable. Cette maman, donc, on allait la désenfanter. Donc, sa fille, pour elle, la prunelle de ses yeux, c'est une maman qui, comme Julie, vous voyez, était dans la recherche, donc une maman qui avait une sacrée situation. Elle a jugé bon de tout abandonner. Donc, elle est partie, elle est allée en Suisse. Arrivée en Suisse, heureusement, la Suisse est un état protecteur pour les enfants. Donc, l'enfant...
C'est un peu mieux qu'ici. C'est un peu mieux qu'ici, oui.
Voilà. Donc, très scolarisée, hein, pas de problème. Et la maman trouve du travail où elle peut, c'est-à-dire femme de ménage. Vous voyez, vous avez une grande situation, vous devenez... Bon, c'est pas grave, sa fille. Un jour, par malheur, elle a le malheur de mettre un pied en France. Elle avait à peine mis son pied en France qu'elle a été arrêtée et mise en prison. En fait, elle a été mise en prison pendant plusieurs années, vous savez pourquoi ? Pour avoir protégé son enfant. Cet enfant-là, a plus de 18 ans, hein, donc qui est majeur, qui bien évidemment peut l'avoir, mais n'empêche que pour Priscilla, pour qui tout le monde a porté sa cause...
Oui, non, mais je veux dire, elle a fui... D'accord, pour que ça arrive...
Elle a été libérée, alors je vous rassure, elle n'est plus en prison.
Elle a fui la justice parce qu'elle s'est expatriée après un jugement.
Pour son enfant.
Et un jugement qui n'était pas suffisamment important pour passer par Interpol, c'est ça. C'est pour ça que nous, on dit aux gens de partir avant d'avoir un jugement. Parce qu'une fois que le JAF ou le JDE est rentré, il ne faut pas. C'est plus possible.
Mais
c'est
là,
dangereux.
Oui, bon.
Ça, c'est un bon conseil.
Oui, parce que on ne peut pas dire aux gens de... Non, mais à partir du moment où le système commence, il faut éviter que le système vienne. Pareil, si vous n'entendez plus avec l'autre parent de vos enfants, n'allez pas vous battre au tribunal. Ça ne marche plus, c'est devenu dangereux. Vous y perdrez votre maison, votre voiture, vous dépenserez tout ce que vous avez au niveau de votre avocat, surtout si ça se passe mal avec l'autre. Essayez de trouver un accord entre vous, entre grands garçons, parce que le système, en fait, est devenu... c'est une pompe aspirante à envoyer les gens aux minima sociaux. Hein. Il faut se rendre compte de ça, en fait. Hein. Les personnes qui sont confrontées au système judiciaire, que ce soit le JAF ou le JDE, vont dépenser 1500 balles, 2000 balles par audience. Quand c'est chaud, ils en ont 3 ou 4 par an. C'est pas du tout des impôts sur le revenu. C'est pas du tout des calculs CAF. Donc, c'est leur patrimoine qui est aspiré, qui s'évapore, jusqu'au moment où ils arrivent à l'AJ, avec baisse de défense qu'il y a. Donc, si on peut se débrouiller sans passer par l'institution, on y gagne. Vraiment. Beaucoup. Puis les enfants vont mieux.
Disons qu'on sauve, les enfants. Parce que quand même, bon, ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais est-ce que vous croyez que les avocats sont tous raisonnables dans leurs tarifs? Parce que c'est des choses, effarante, hein, moi que j'entends. Pour avoir ne serait-ce que quelques renseignements, il arrive à des parents de devoir donner jusqu'à 3000 euros. Il n'y a même pas eu de procès, il n'y a rien. Il arrive aussi que le procès ait lieu et que l'avocat ne vienne pas.
Et ça, c'est le bouquin qu'on avait...
Des cas comme ça, moi, c'est tous les jours, hein, j'en entends.
C'est le bouquin que j'avais écrit il y a un an et demi après les européennes. On a un problème, on a un prestataire privé payant obligatoire, parce que si on ne l'utilise pas, ça ne marche pas. Je veux dire, si moi je vois un recommandé au tribunal pour demander un truc, ils ne me répondent pas, il faut que je donne 150 balles à un mec pour qu'il envoie un courrier, pour que j'ai mon document. Donc on a un prestataire privé qui fait de l'argent, qui est très très bon, hein, qui est très très bon, mais qu'on est obligé d'utiliser, et ça pose un problème quelque part. Moi je dis qu'il manque le métier de défenseur des droits de l'enfant. Dès qu'il y a un enfant qui est concerné par quelque chose, il manque quelqu'un qui vienne, qui s'occupe du gosse.
C'est ce que j'allais dire, c'est que malheureusement, c'est encore l'argent qui passe avant le bien-être des enfants.
Exactement.
Ah, et ouais, moi, j'ai connu des gens qui ont dépensé 100, 150 000 balles. Il y a bon. Et tu vois tes enfants? Non, mais on leur a bien montré. Bon, d'accord. Donc, c'est même plus une histoire d'argent. Que vous soyez à l'AGI ou super riche, en fait, vous finissez pareil. Quand ça commence à tourner mal, vous finissez de la même manière.
C'est triste. Et c'est vraiment le constat,
ah oui,
malheureusement.
Ah ouais, de la oui. Et qu'on soit un père ou une mère.
Système qui broie.
Et qu'on soit un père ou une mère. Hein, parce que dans les réseaux d'entraide que j'ai, je vous dis, moi, les petites têtes blondes de 8-9 ans, les photos, certificats médicaux et tout, je les vois. Les trucs, je les lis et je vois bien que si on les renvoie pas chez le parent en question, les gens ont des problèmes. Donc ça, ça existe. C'est vrai. À une époque, j'y croyais pas, mais j'ai vu passer les documents, j'ai vu les cas, j'ai même rencontré des familles, j'ai parlé avec eux. C'est vrai et ça existe. Et de par ma position, moi, j'ai vu plein de gens. Vous savez, j'en ai un ici à Périgueux, ils lui ont dit, elle est partie un jour, elle dit, toi, tu ne verras plus jamais ton fils de 3 ans. D'ailleurs, tu viens de le sodomiser. Bon, ah, j'y vais à moi. Ouais, ça a duré 10 ans la connerie quand même. Hein. Il est passé pour une merde, il a perdu son boulot, il a failli se flinguer 2 fois, il n'a pas vu son fils durant 10 ans parce que on fait attention. Et ça, ça existe aussi. Et on a les deux, et les deux sont intolérables.
Ouais, complètement d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut étudier le cas par cas et arrêter de faire de la va-vite. Et on revient encore à ce principe de base, c'est que malheureusement, toute personne qui travaille dans ces institutions-là, en règle générale, n'ont pas fait un travail approfondi sur elles-mêmes et plaquent sur la situation ce qu'elles n'ont pas réglé elles-mêmes.
Et vous l'avez dit, ce sont majoritairement des femmes, elles sortent à peine de l'école. Elles n'ont pas eu le temps de faire une famille, elles n'ont pas eu le temps d'enfanter, de vivre tout ça. Et elles n'ont pas eu le temps de voir qu'un enfant de 5 à 6 ans est très malléable. Bon, quand il y a un certificat médical, il y a un truc qui m'a gêné. Katia, j'en profite, il n'y a pas grand monde, on est entre nous. Je veux dire, durant une de vos émissions, là, j'ai un avocat, Maître Frasson, qui a dit l'enfant ne peut pas mentir. Moi, ça me pose un souci. Parce que.
L'enfant ne peut pas mentir.
Si l'enfant dit quelque chose, c'est qu'il ne ment pas, l'enfant ne ment jamais. Moi, ça me pose un souci parce que. Lorsqu'on prend un enfant de 8-9 ans et qu'on part du principe que tout ce qu'il dit est parole d'évangile, ça veut dire qu'on le met en danger parce qu'on le met en position d'avoir des pressions. On le met en position d'avoir des gens qui vont essayer de lui faire dire des choses. Et quelque part, on était censé protéger l'enfant. Moi, je pense que la parole de l'enfant est importante, qu'elle est nécessaire, mais qu'elle n'est pas suffisante. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et là encore, il ne faut pas généraliser. Qu'est-ce qu'un enfant? Un enfant de 2 ans, un enfant de 3 ans, un enfant de 6 ans,
exactement,
un enfant de
10 ans. Exactement, ce n'est pas les mêmes stades.
Absolument.
Bravo. Merci, madame.
Et il faut y aller au cas par cas, encore une fois. Et il faut voir aussi la psychologie du père, la psychologie de la mère, des personnes qui sont autour. Parce qu'en fait, s'il y a de la dysfonction, l'enfant va avoir tendance à être dysfonctionnel dans son raisonnement et dans sa présentation de la réalité.
L'enfant joue sa partition. Il joue aussi son rôle. Il est aussi. C'est un acteur du.
Et tout dépend de l'âge de l'enfant. Un tout petit, qu'est-ce que vous voulez, il va rien inventer.
Il va tirer son épingle du jeu aussi, hein, parfois.
Ben, l'enfant, il survit. Quand il voit qu'il y a des scuds partout, voilà, et que les parents sont en train de se battre, l'enfant, il essaie de trouver une solution pour survivre aussi. C'est normal.
Exactement. Hein, et tout ça n'est pas compris dans sa globalité, dans les détails, par les personnes qui ne sont pas formées au niveau du judiciaire. Elles ne sont pas formées pour faire ça.
Ben, je suis d'accord avec ça et je trouve qu'on a un souci. Moi, j'ai constaté deux choses. Hein. Les magistrats qui vont dans les tribunaux, ils appellent ça le service des couches. C'est-à-dire qu'en fait, elle sort de la magistrature et les magistrats veulent accéder en majorité, hein, aux grosses affaires, aux médias, les choses qui ont un impact sur la société, parce que très souvent elles ont une vocation, elles veulent vraiment faire leur métier, puis c'est à ça qu'elles aspirent. Et lors des attributions de poste en juin ou en septembre, en fait, très souvent les débutants vont au divorce et un peu au JDE, mais sans avoir eu des formations particulières autres que celles qu'elles auront eu le choix d'avoir par eux-mêmes. Et c'est ces gens qui sont en première ligne par rapport à ce genre de problème. Et c'est pareil pour les profs. Hein. On envoie les profs débutants au quartier difficile. Hein. Donc c'est un peu un choix de société aussi.
J'ai une collègue qui est psychologue. Elle avait à peine 25 ans quand elle a eu son master et elle a commencé par une prison de haute sécurité.
Ah oui.
Comme psychologue. Elle m'a dit, mais je ne pouvais pas faire mon métier. C'était impossible. Impossible. Et pourtant, c'est là où on l'a embauchée.
Ça a dû lui apprendre la vie un peu quand même. Hein. Ça a dû quelque chose.
Mais bon, on fonctionne un peu sur la tête, quoi. On devrait quand même tout simplement dire non, c'est pas possible que qu'elle commence comme ça.
Stéphane, revenons quand même à ce que vous avez dit, parce que bon, ça met quand même en cause Vanessa Frasson.
Bon, alors, Vanessa Frasson, oui, j'ai pas compris. J'ai cru entendre ça. Peut-être qu'il y avait un contexte.
Non, mais c'est important parce qu'il faut qu'on revienne quand même.
Oui. En plus, Vanessa, quelqu'un de bien, Vanessa, je la connais.
Quand Vanessa dit en parlant d'un enfant, je te crois, hein, tu parles, je te crois. C'est indispensable parce que si vous ne croyez pas l'enfant au démarrage, c'est catastrophique. L'enfant, il va être totalement détruit. Donc, quand elle dit je te crois, ça ne veut pas dire que obligatoirement l'enfant n'a pas dysfonctionné. Elle veut dire par là, faut pas l'enfermer à l'ASE, faut qu'il voit un spécialiste.
Ah oui. Et que l'on sache qu'il va. Oui, il y a ça, 100%. Oui.
Voilà. Et c'est pour ça que je disais en parlant de tout à l'heure de Julie, je disais c'est des personnes comme ça qu'il faut qu'ils voient les enfants. C'est pas les mettant à l'ASE qu'on va les sauver. Hein. Voilà ce qu'elle veut dire quand elle dit.
Je suis d'accord. Ok. J'ai mal compris. Oui.
J'ai fait un petit stage à l'ASE et j'ai dit jamais. Voilà. Jamais l'ASE.
Il y a des gens très bien là-bas. Moi, j'ai vu des éducs de terrain qui sont formidables. Hein. On leur tape souvent sur le dos, mais il y a des individus qui, en tant qu'individus, sont des gens extraordinaires. Il faut le dire aussi. Voilà, on va.
En tout cas, j'ai dû avoir une mauvaise expérience.
Oui, mais il y a beaucoup de monde qui a eu de mauvaises expériences. Mais il y a aussi des gens. J'en ai eu quelques-uns et tout. Moi-même, j'ai tenté l'IRTS à une époque.
Obligatoirement, il y a des gens qui sont rentrés à l'ASE en croyant de bonne foi aider.
Oui.
Ça, c'est sûr et certain.
Ah oui.
Alors après, vous avez deux portes où ces personnes-là se rendent compte qu'ils ne pourront jamais rien faire parce que le système est bouclé et dans ce cas-là, ils partiront. Vous en avez d'autres qui ont tellement besoin de cet argent-là, bah, qui vont rester là, en fait, passibles.
Il y en a aussi qui ont une cuillère à café pour vider un océan et qui se disent « ma goutte d'eau peut compter ».
Oui, c'est vrai.
Il faut le dire, parce que voilà, on ne peut pas dire que de manière systémique, un par un, ils viennent faire du mal aux gens. Ce n'est pas vrai. J'en ai rencontré, ce n'est pas ça du tout. Par contre, je reviens sur le truc d'avant. Mes parents étaient divorcés quand j'étais gamin, je passais de l'un à l'autre et ils me faisaient raconter des trucs. Jusqu'au moment où j'en ai eu marre, j'ai dit, vous arrêtez de me faire raconter des trucs parce qu'ils se battaient de l'un à l'autre, là, enfermés dans l'armoire, et puis j'avais mal au ventre quand je passais de l'un à l'autre. Donc, un enfant de 8-9 ans qui va dire à sa maman, papa, il a fait ci ou ça, je parle pas de choses énormes, ou inversement, c'est pas une preuve. Voilà, c'est à ça que je voudrais en arriver parce que pour certains jeux, j'ai accédé à des auditions et autres où l'enfant, on lui tue, on le fait pleurer durant 30 à 40 minutes, et à la limite, on lui arrache des aveux. Et lorsqu'on met les aveux sur le papier, ils ne sont pas reproductibles parce qu'ils sont insensés, si vous voulez. On rentre dans un imaginaire. Et on se demande vraiment d'où vient cette chose où ce que dirait un enfant de 8-9 ans serait forcément la vérité. Parce qu'il y a des gens, des enquêtrices sociales, en situation de divorce, vont aller voir un gamin et lui dire « Alors, entre papa et maman, tu préfères qui ?» C'est une énormité. Mais je l'ai lu, je l'ai vu, c'est des questions que des professionnels vont aller poser au gamin. Et puis après, les deux parents vont dire « Ah, le gamin, il faut absolument qu'il raconte ça pour qu'on puisse... parce que là, il ne faut pas qu'il voit l'autre idiot, là, ou etc. » Enfin, ils vont se battre et autres. Donc, c'est vraiment mettre l'enfant en danger. Et moi, j'attire vraiment à la prudence. Quand j'entends que beaucoup de gens ne sont pas condamnés, j'ai tendance à dire « Attention, beaucoup de gens n'ont pas été reconnus coupables ou n'ont pas été démontrés coupables. » Je sais pas si vous voyez ce que j'essaie de formuler.
Là. C'est vrai. Bah, de toute façon, là, à ce moment-là, évoquons simplement le procès d'Outreau. Parce que là, on a vraiment la totale.
C'est un scandale. Il y en a trois, d'ailleurs, de procès d'Outreau.
C'est une aberration.
Total, c'est un scandale total.
Voilà. Moi, je vais refaire une émission sur le procès d'Outreau à la demande de beaucoup de personnes. Je vais le refaire.
Et on s'est
avec
fait enfumer. On n'y comprend rien. Personne n'y comprend rien. On s'est complètement fait enfumer. Oui, bien sûr.
C'est horrible. Parce que là, vous avez des enfants qui ont été totalement maltraités, qui n'ont pas été crus. Et regardez les pauvres ce qu'ils sont devenus aujourd'hui.
Et visiblement, il y avait quelque chose. Je suis désolé de dire, mais là on n'est pas dans l'allégation sans certificat médical ni rien. Là, on est vraiment dans le truc.
Tout à fait. C'est pour ça que j'évoque Outreau, parce que c'est tellement incroyable.
Et voilà. C'est révélateur de notre système judiciaire.
Oui, parce qu'après, on va avoir un prof, qu'est-ce qu'il va dire ? Oh, je suis pas d'accord, il me semble qu'il y a un truc. Et les gens vont être tellement affolés qu'ils vont aller dessus en sautant et puis ils vont faire n'importe quoi. Et puis à côté, moi je suis mauvaise langue, j'ai aussi parfois l'impression qu'on n'a pas envie de faire trop de jurisprudence sur les cas graves parce qu'autrement il y en a qui auraient des problèmes. Mais ça, c'est moi qui dis.
je vous assure, l'affaire Dutroux, parce qu'elle sera réouverte un jour, c'est pas possible qu'elle ne le soit pas, il y a des dégâts, mais c'est d'un compliqué, d'un complexe, parce qu'il y a tout eu là-dedans, hein. Il y a aussi la prostitution, il y a tout eu, il y a aussi des enfants qui ont disparu mystérieusement, enfin, il s'y est tout passé dans cette affaire-là. Oui, mais vous êtes retrouvé, bah, quand même bien le dire. Hein.
Vous voyez, quand on monte un petit peu, il y a des réseaux, très clairement, avec Epstein, il y a un réseau, il y en a d'autres, moi je disais avant, que les gens, on se parle aussi en off et tout, en France, comme dans d'autres pays, en Angleterre, Espagne, Italie, il y a des réseaux, il y a des choses qui se passent à certains endroits. L'ASE alimente notamment une partie de ces réseaux. Il y a une immunité judiciaire. Les enquêtes ne se font pas, on creuse pas. Mm-hmm. Donc il y a aussi un acharnement sur les gens du peuple. Et pour les cas extrêmement graves, il y a un certain lac.
Complètement, oui.
Oui, mais totalement d'accord. Il y a des choses qui nous dépassent parce que c'est tellement énorme, c'est tellement invraisemblable que l'on n'y croit pas. Je vais vous raconter une autre histoire parce que ça j'ai été terriblement choquée. J'ai reçu dans mon émission, je vous l'ai dit tout à l'heure, des grands-parents. Bien. À la fin des émissions, nous allons toujours dîner au restaurant pour se détendre, parce qu'on n'en peut plus. Hein. Julie peut vous le dire, après 2 heures d'émission plus souvent, on est épuisé. Bon, donc, on est à ce restaurant et un couple de grands-parents qui faisaient partie de l'émission est venu nous rejoindre. Je vous dis tout de suite que je vous donnerai pas les noms, mais c'est des personnes que j'ai pas du tout appréciées dès le départ. Et là, au cours de la conversation, le grand-parent en question, le grand-père en question, ose nous dire, parce que j'entendrai ça toute ma vie, les gens qui touchent des bébés, hein, ben, en fait, c'est pas grave, parce qu'un bébé, ça n'a pas de mémoire. Donc, plus tard, il ne souffrira pas. Je crois, à ce moment-là, qu'on était il y avait 7 personnes avec nous à table. On s'est regardé. Moi, j'ai dû devenir blême. Hein. Je me suis tenue pour pas lui sauter à la gorge. Mais comment peut-on dire ça? Comment peut-on dire ça? Vous voyez?
On peut dire que c'est un problème du médecin.
Il y a des endroits du monde où on gère les problèmes de manière différente de chez nous. Mais bon, c'est pas bien.
Voilà. Quand on
les médecins chirurgiens ont défendu la thèse qu'on pouvait faire des opérations sans anesthésie sur des bébés jusqu'en 1992. Ça a été interdit en France à partir de 1970 parce que le bébé ne ressentait rien. Il ne ressent rien physiquement, il ne ressent rien non psychiquement.
Ça, c'est vrai. Le traitement les hôpitaux, le traitement de la douleur a mis beaucoup de temps à être reconnu chez nous. Beaucoup.
Mais c'est fou, hein.
Ouais.
Fou.
Et la souffrance n'est pas prise en compte par l'institution. On retrouve ce problème de douleur par rapport à l'hôpital et à la médecine.
Ah non, mais je vous assure, quand vous entendez ça, quand vous entendez quelqu'un qui vous regarde avec un petit sourire, vous dire, mais un bébé, bah, on peut lui faire n'importe quoi puisqu'il n'a pas de mémoire. Donc, c'est sans dommage. À ce moment-là, vous êtes mal.
Je pense sincèrement que les bébés, justement, qui ont été agressés sexuellement, aujourd'hui, sont la majeure partie de la population dans les hôpitaux psychiatriques. D'ailleurs, ça a été prouvé, hein, c'est 95% de la population dans les hôpitaux psychiatriques, c'était une étude au Canada, disait qu'en fait, ces personnes-là avaient subi des agressions sexuelles de petite enfance. Donc, en fait, il y a une relation de cause à effet évident et encore aujourd'hui, des personnes sont capables de dire ce genre d'absurdité, d'ânerie, de monstruosité.
Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui ne font pas la différence. Il y a d'ailleurs, Stéphane, j'ai en profité pour demander à Julie qu'elle vous explique quelque chose, parce que c'est très important, qu'elle nous fasse la différence entre incestueux et incestuel.
Oui, je l'ai entendu expliquer ça, et c'était très bien. Oui.
Je vous assure, ça c'est très important de faire la différence.
Donc, les deux sont traumatiques, et on va dire que l'incestueux est un cas particulier de l'incestuel. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être incestuel pour pouvoir être incestueux. Dans l'incestuel, c'est arriver à déjà concevoir que sa progéniture, son enfant, est, son oncle, son neveu, sa nièce, etc., est un objet sexuel. Peut-être un objet sexuel.
Donc, on le conçoit. Une sexualisation de la relation dans l'imaginaire. Voilà. Enfin, dans
l'imaginaire. Okay. Ça, c'est l'incestuel. Et l'incestueux, c'est le passage à l'acte, tout simplement, puisqu'il n'y a plus, de barrière de l'imaginaire à l'arrivée.
Et puis,
deux sont traumatiques. Hein.
Et puis, il y a ça, mais dans votre dernière explication que j'avais entendue, il y avait aussi le cas, par exemple, de l'enfant qui dormait avec son parent du sexe opposé alors qu'il était déjà en prépuberté et autres. C'est pas forcément une sexualisation volontaire ou avérée parent. Par contre, ça provoque éventuellement, je dirais pas des débuts des mois, mais des réactions de l'enfant qui sont inadaptées. Normalement, le fils, avec sa maman, à un moment donné, va dans son lit et dans sa chambre. La mère, avec son... Bon, je sais, par exemple, quand j'étais en Asie, on ne séparait pas les bébés pour les mettre dans leur chambre très tôt. Ça faisait un trauma de l'attachement, de séparation très tôt. Il y a quasiment que les pays européens qui font ça. J'ai appris ça, hein, parce que j'étais pas d'accord. Et puis, mon ex avait raison. Donc, si elle a raison, je regardais pourquoi. Effectivement, elle avait raison. C'est une raison pour laquelle les enfants se séparent de leurs parents plus rapidement à l'adolescence que dans les cultures où ils restent ensemble. Par contre, il est normal qu'à 3, 4 ans, l'enfant demande et naturellement aille vers son espace, son lit, sa chambre, mais sans avoir ce sentiment d'être rejeté de manière naturelle.
Tout à fait. Mais ça, c'est le principe de base de l'éducation. C'est-à-dire qu'on va satisfaire le besoin de l'enfant et non satisfaire notre croyance de ce qui est bon pour l'enfant.
Oui.
Mais on le retrouve aussi dans l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale, un enfant doit savoir lire à 6 ans. Il y a des enfants qui savent lire à 4 ans, spontanément, parce qu'ils ont envie d'apprendre plus tôt. Puis il y en a d'autres, si vous les laissez, ils apprendront à lire qu'à 9 ans, mais ils sauront lire en 3 semaines, parce qu'ils seront prêts après 9 ans.
Alors attention, en fait, si vous arrivez de l'étranger avec un enfant de l'école singapourienne qui sait déjà lire, ils vont vous dire ici que vous le harcelez parce qu'il sait trop de choses trop tôt. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Voilà,
mais
ça c'est fait.
Je reviens toujours, l'individuation. Chaque enfant est différent, il a des besoins différents, il a des motivations différentes et il faut l'écouter. Et c'est vrai qu'un enfant qu'on sépare trop tôt parce qu'on dit oh, il faut qu'il apprenne à dormir tout seul, sinon on va en faire une mauviette, hein, c'est un peu ça. Cet enfant-là va être en carence affective et donc plus tard aura tendance à vouloir aller chercher comme une compensation en restant plus longtemps chez les parents et en cherchant quelque chose qui n'a plus lieu d'être, au lieu de guérir le manque.
Il prendra beaucoup moins soin de ses parents plus tard, parce qu'il leur accordera moins d'importance, parce qu'au fond de lui, ce lien-là a été traumatisé au départ.
Exactement, exactement. Il y a une destruction du lien affectif dans les pays occidentaux qui est terrible.
Ah ben oui,
qui est vraiment
la mère le porte, il y a quasiment fusion, il faudrait que 24 heures après, il soit dans sa chambre à l'étage. Non mais c'est...
Exactement,
C'est très très violent. C'était Katia de Brinon ce soir, et Julie-Christine Duboc, qui nous ont donné une heure de leur temps, je les en remercie beaucoup.
Merci à vous Stéphane, ça fait du bien de pouvoir s'exprimer, de pouvoir alerter, parce que c'est notre vie, hein, ça je dis, c'est qu'on alerte.
C'est le plus beau sujet du monde, c'est nos enfants.
Voilà. Oui.
C'est le plus beau sujet du monde, c'est le plus douloureux parfois, absolument, mais c'est le plus beau de manière générale.
Et les enfants d'abord, voilà.
Merci mesdames, bonne soirée à vous, merci.
Bonne soirée.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.